Chapitre 18. Ellen G. White et la mission adventiste. David Trim. Dans le livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, publié 2 ans après la création de l'église adventiste du septième jour, le roi de cœur dit au lapin blanc « Commence au commencement, puis continue jusqu'à la fin, ensuite arrête-toi ». Pourtant, dans l'histoire, il est parfois utile de commencer non par le commencement, mais par la fin. Le 24 juillet 1915, Arthur G. Daniels s'adressa aux 4000 personnes qui étaient présentes aux funérailles d'Ellen White, à l'église Dime Tabernacle de Battle Creek. Arthur G. Daniels connaissait Ellen White et avait travaillé avec elle pendant 25 ans. Il était président de la conférence générale depuis 14 ans et il prit la parole au nom d'un mouvement qui commençait à devenir international. En faisant son panégyrique, il mit l'accent sur l'engagement d'Ellen White dans la mission mondiale. Dans les écrits de Madame White, une place importante est accordée aux responsabilités de l'Église dans le domaine du service missionnaire, tant chez nous qu'à l'étranger. Tous les membres du corps de l'Église sont invités à être une lumière dans notre monde, une bénédiction pour ceux qu'ils fréquentent. Tous doivent suivre les pas du Maître et faire preuve d'altruisme. Et l'Église chrétienne est encouragée à faire de son mieux pour évangéliser ceux qui tâtonnent dans les ténèbres et se perdent en raison des croyances superstitieuses des pays païens. Allez dans le monde, donnez tout au monde, travaillez pour le monde. Cette exhortation est le fil conducteur de tous les écrits de Madame White. Avec le recul, il est frappant de constater que dans le bilan des 70 années du ministère prophétique d'Ellen White, Arthur G. Daniels souligna avant tout que le thème majeur de ses écrits fut la mission en général et la mission à l'étranger en particulier. Dans cet essai, je désire montrer qu'Arthur G. Daniels avait raison. La mission était la priorité absolue d'Ellen White. De plus, même si elle mettait l'accent sur les responsabilités de l'Église et la mission dans notre pays, elle était particulièrement attachée à l'implication de l'Église dans les projets d'évangélisation à l'étranger. Elle insista sur ce point dans les dernières années de sa vie. La nécessité de proclamer la bonne nouvelle et les vérités prophétiques de l'Apocalypse partout, à tous les peuples, et notamment ceux qui n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile, et dans le monde entier, est évoquée dans tous les écrits de Madame White. Cela étant dit, ces écrits sont si importants et si variés, et Ellen White était passionnée par tellement de sujets, que l'affirmation selon laquelle la mission à l'étranger était une priorité pour elle peut sembler tendancieuse. Mes collègues œuvrant dans les domaines de l'éducation, des publications et de la santé pourraient citer de nombreux textes prouvant son intérêt pour ces questions. Je pense cependant que pour elle, tout était question de méthodologie, le moyen d'arriver à une fin. Dans cet essai, je montrerai que le thème majeur des écrits d'Ellen White est le fait que tous les membres d'Église devraient partager largement la bonne nouvelle que « le Fils de Dieu est venu parmi les fils des hommes », revêtant la nature humaine afin de pouvoir répondre aux besoins des hommes, faisant preuve d'amour, de miséricorde et de compassion dans toutes ses actions, démontrant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Dans la pensée d'Ellen White, les prédications, les écoles, la littérature et la tempérance en toutes choses étaient différentes façons d'exalter devant le monde notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur et Grand Prêtre. Agir ainsi est la mission de l'Église et de tous ses membres, quel que soit le pays dans lequel ils vivent. Daniels résuma ainsi la pensée d'Ellen White. Chaque membre du corps doit être une lumière dans le monde. Tous les membres doivent imiter le Maître et faire preuve d'altruisme. Pourtant, la passion pour la mission d'Ellen White avait une application particulière. Comme le disait Daniels, voici ce qu'elle pensait. L'Église chrétienne est encouragée à faire de son mieux pour évangéliser ceux qui tâtonnent dans les ténèbres et se perdent en raison des croyances superstitieuses des pays païens. Ce n'était pas simplement une préoccupation théorique, comme le souligna Daniels dans son panégyrique. Elle consacra 70 années de sa vie à servir la cause de Dieu au nom de l'humanité pécheresse, souffrante et affligée. Après avoir effectué de nombreux voyages aux États-Unis entre 1846 et 1885, elle se rendit en Europe où elle œuvra pendant 2 ans dans le but de faire de la formation. En 1891, elle alla en Australie où elle resta 9 ans, voyageant dans les colonies et consacrant toute son énergie à établir la mission. Comme nous l'avons déjà dit, voici quelle fut la conclusion de Daniels. Allez dans le monde, donnez tout au monde, travaillez pour le monde. Cette exhortation est le fil conducteur de tous les écrits de Madame White. Ainsi, même si cet essai porte avant tout sur Ellen White et la mission adventiste, il analyse également sa pensée et ses écrits sur la mission. J'évoquerai brièvement la mission intérieure car, comme nous le verrons, selon Ellen White, la mission intérieure et la mission à l'étranger étaient étroitement liées, comme le disait Daniels. Ellen White joua un rôle majeur en persuadant les adventistes du septième jour d'accepter la responsabilité consistant à évangéliser au-delà du territoire de l'Amérique du Nord. De plus, à la fin de sa vie et de son ministère, elle accorda de plus en plus d'importance à la mission dans les pays et les régions où le christianisme était minoritaire ou absent. L'histoire d'Ellen White et de la mission adventiste nous montre qu'avec l'aide de Dieu, elle comprit progressivement l'importance majeure d'évangéliser en dehors de l'Amérique du Nord, et notamment au sein des groupes n'ayant jamais entendu parler de Jésus-Christ. Elle fut la première à mettre l'accent sur ce point. Il y a 30 ans, Burg Schantz mena une étude systématique sur la mission adventiste, comprenant une analyse intéressante et complète des théories missionnaires d'Ellen G. White. Cela fut la première analyse sérieuse de la pensée d'Ellen White sur le thème de la mission. Cependant, elle ne contient pas d'étude sommative de ses principes concernant la mission. Deux autres études furent effectuées, mais leur étendue est limitée sur le plan chronologique et géographique. Dans son analyse pertinente de la théologie adventiste de la mission jusqu'en 1874, Gérard Damstecht évoque souvent les écrits d'Ellen White sur le sujet, mais ne propose pas de synthèse et résume un seul point, la porte fermée, alors que Rex Richess donne un aperçu de la pensée d'Ellen White sur la mission en Europe, notamment en Grande-Bretagne. Ellen White écrivit des milliers de mots sur le service missionnaire à l'étranger, et il n'est pas facile de résumer sa pensée sur les sujets auxquels elle attachait de l'importance. S'inspirant de ce que Dieu lui montrait dans ses visions et de son expérience concrète en tant qu'évangéliste et missionnaire, Ellen White évoquait fréquemment certains thèmes quand elle écrivait au sujet de la mission, mettant l'accent sur certaines méthodologies et certains aspects qui lui semblaient importants. Dans le cadre de cet essai, je me suis efforcé de tirer de ses écrits les principes qui lui semblaient essentiels pour le service missionnaire, après avoir étudié sa pensée générale sur la mission. Ellen White produisit de nombreux écrits sur la mission, ce qui aida l'Église adventiste à passer d'une vision centrée sur l'Amérique à une vision plus globale. Dans ses écrits, six principes majeurs apparaissent. 1. Le travail missionnaire doit être mené par des personnes d'expérience. Celles qui ne se sont jamais rendues dans un champ missionnaire ne doivent pas décider de quelle façon il convient d'œuvrer dans ce domaine. 2. Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer et il convient de leur confier des responsabilités. Ils doivent cependant être correctement formés. 3. Les ressources financières sont essentielles, mais elles doivent être réparties de façon à pouvoir travailler dans de nouveaux territoires plutôt que de vouloir se concentrer sur les projets existants. 4. La mission adventiste doit être présente dans le monde entier, comme le recommande l'Écriture, car sinon, des âmes pourraient être perdues et le retour du Christ pourrait être retardé. 5. La mission adventiste doit être centrée sur le Christ et dirigée avec amour par des missionnaires qui entretiennent une relation étroite avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. 6. Enfin, le message adventiste doit être partagé avec tous les groupes nationaux, ethniques, linguistiques, mais aussi religieux. L'adventisme du septième jour n'est pas un simple mouvement de réforme au sein du protestantisme. Tous doivent entendre parler de l'évangile éternel et découvrir les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il est important de noter que, si elles sont prises hors contexte, certaines déclarations d'Ellen White peuvent sembler contradictoires parce qu'elles mettent l'accent sur des méthodes différentes. Mais on ne peut reprocher à Ellen White d'avoir fait preuve d'incohérence. Au contraire, elle défendait une vision holistique de la mission, nécessitant parfois une approche plurielle. Par conséquent, parfois et dans certaines circonstances, elle mettait l'accent sur un aspect particulier de la mission parce qu'elle craignait qu'on ne le perde de vue. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle considérait qu'il fallait insister sur ce seul aspect ou qu'il était plus important que les autres. Elle pensait que les différentes composantes de la mission étaient complémentaires. Heureusement, dans beaucoup de ses écrits, elle évoqua toutes ses composantes, ce qui nous permet de constater qu'elle avait une approche très large de la mission qui devait être menée dans le domaine de la médecine, de l'éducation, des publications et des ministères personnels. De l'Amérique à toutes les parties du monde. En 1863, les fondateurs de la Conférence générale définirent la mission des Adventistes du septième jour comme étant l'œuvre majeure consistant à apporter partout la lumière sur les commandements de Dieu, la foi de Jésus et les vérités découlant du message du troisième ange. Pourtant, pendant plus d'une décennie, les Adventistes du septième jour considérèrent que cette œuvre majeure était nécessairement limitée sur le plan géographique. Il fallut attendre 3 décennies après la Grande Déception pour que les choses changent. En effet, l'Église du reste envoya ses premiers missionnaires à l'étranger en 1874 seulement. Avant cela, la plupart des adventistes n'accordaient pas d'importance à la mission. Ils y avaient réfléchi, mais ils pensaient que cela n'était pas nécessaire. En 1859, Uriah Smith, le rédacteur en chef de la revue Review and Herald, avait écrit que le message du troisième ange n'était pas proclamé dans d'autres pays, mais que cela n'était probablement pas nécessaire, car l'Amérique était composée de représentants de presque toutes les nations. Ainsi, la prophétie apocalyptique selon laquelle l'Évangile devait être annoncé à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue pouvait s'accomplir au sein même de l'Amérique du Nord. En 1867, Smith évoqua à nouveau cette question et observa avec satisfaction. Dans quel autre pays la proclamation de la vérité pourrait-elle toucher autant de peuples, nations et langues? On trouve ici des représentants de toutes les parties civilisées de notre globe. Cependant, quelques personnes avaient déjà une vision plus globale de la mission. James White, par exemple, encourageait les membres d'Église à voir plus loin. Mais il déclara en 1870 que, parmi ceux qui étaient prêts à soutenir la cause dans notre propre pays, était incertain concernant la cause en Europe. Enfin, en octobre 1874, 15 septembre, Andrews prit le bateau pour l'Europe. Il fut le premier missionnaire adventiste à se rendre à l'étranger. Quelques semaines plus tard, Stephen Haskell écrivit dans la revue Review and Herald. Il fallut une bonne dose de foi pour croire que cette œuvre pourrait toucher toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue et permettre à des milliers de personnes de différentes nationalités d'accepter le sabbat du Seigneur et d'autres vérités similaires. Haskell reconnut qu'au début, la conception des responsables de cette mission était trop étroite, mais il ajouta qu'il faisait désormais des projets plus larges et plus complets. Comment expliquer le fait que les responsables d'Église ainsi que les membres aient changé d'avis? Cela est certainement dû à l'action de James White, ainsi qu'aux appels à l'aide de petites congrégations d'adventistes en Europe qui s'étaient formées suite à l'envoi de livres et grâce à des efforts de missionnaires non officiels. Mais le ministère prophétique d'Ellen White y fut aussi pour quelque chose. L'une de ses premières révélations, et l'une des plus importantes, eut des implications majeures pour les missions étrangères. Elle l'a reçue lors d'une rencontre qui se tenait à Boston le 18 novembre 1848. Lorsqu'elle prit fin, elle dit à James, son mari, « Tu dois commencer à imprimer un petit journal et le répandre parmi le peuple. Qu'il soit petit d'abord. À mesure que les gens le liront, ils enverront de l'argent pour l'imprimer, et il aura du succès dès le début. » Cette vision est célèbre parmi les adventistes du septième jour, car elle est à l'origine de nos publications. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. « Il m'a été montré que de ce petit commencement, des flots de lumière inonderaient le monde. » Il était donc implicite dans cette vision que les adventistes du septième jour avaient un avenir. Cette première étape passée, au cours des 20 années qui suivirent, l'attention d'Ellen White fut accaparée par des questions internes et ses visions concernèrent essentiellement des questions de doctrine et d'ecclésiologie. Mais quand les sabbatistes s'organisèrent et devinrent des adventistes du septième jour, elle commença à recevoir des révélations divines mettant l'accent sur la nécessité de proclamer le message du troisième ange au-delà des frontières de l'Amérique. Au début, conformément à ce qui avait été révélé dans la vision qu'elle avait eue en 1848, Ellen White s'intéressa surtout au rôle que pouvaient jouer les publications. En décembre 1871, voici ce qu'il lui fut dit. « Les adventistes du septième jour n'ont pas l'esprit missionnaire. » Il y avait pourtant du travail pour les jeunes filles et les jeunes hommes, et Ellen White déclara « Nos jeunes devraient se qualifier au service en se familiarisant avec d'autres langues, afin que Dieu les utilise pour communiquer sa vérité salvatrice aux habitants d'autres nations. » Ou encore « Des jeunes femmes devraient se consacrer à Dieu en se préparant à se rendre utiles et en étudiant d'autres langues, afin d'être capables de faire de la traduction. » Elle conclut ainsi « Nos publications devraient paraître dans d'autres langues afin que d'autres pays soient touchés. » En 1873, il lui fut révélé que les publications adventistes devaient être traduites en plusieurs langues et envoyées à l'étranger. Elle en parla dans un article publié en janvier 1874 et dans lequel elle affirma clairement que les coûts relatifs à la mission ne devaient pas être un problème, une position qu'elle confirma souvent par la suite. Mais elle commença par évoquer, en des termes très touchants, le potentiel de la littérature adventiste. Il m'a été révélé que nos publications devaient être traduites en différentes langues et envoyées dans tous les pays civilisés, à n'importe quel prix. Elle ne mentionna pas les pays non civilisés, mais cela ne tarderait pas à changer. Il m'a été montré que nos publications ont déjà exercé une influence sur l'esprit des gens dans d'autres pays. Il m'a également été montré que des hommes et des femmes étudiaient avec grand intérêt des journaux et des brochures traitant de la vérité présente. Ils prenaient ainsi connaissance de certaines preuves qui leur paraissaient remarquables et nouvelles et se mettaient à sonder les Écritures avec un zèle renouvelé à mesure que des thèmes sur la vérité qui leur avaient paru obscurs se révélaient à eux. Tandis qu'ils se plongeaient dans l'étude des Écritures pour vérifier si les enseignements reçus correspondaient à la doctrine biblique, de nouvelles lumières s'imposaient à leur esprit, car des anges les entouraient pour leur inculquer les vérités contenues dans les publications reçues et lues. Je les vis tenant dans une main des journaux et des brochures, et dans l'autre la Bible, tandis que des larmes inondaient leurs visages. Ils implorèrent Dieu dans une prière humble et sincère, lui demandant de les conduire dans toute la vérité, ce qu'ils faisaient déjà bien avant que cette requête fût exprimée. Lorsqu'ils reçurent la vérité dans leur cœur et qu'ils discernèrent toute l'harmonie de ces révélations, la Bible leur apparut comme un livre nouveau, qu'ils serrèrent contre leur cœur avec reconnaissance, et toute leur attitude traduisit leur bonheur et leur joie débordante. Mais ils ne se contentèrent pas d'apprécier pour eux-mêmes les lumières reçues. Ils se mirent à travailler en faveur de leurs semblables. La voie se trouvait ainsi ouverte pour la réalisation d'une grande œuvre dans la diffusion de brochures et de journaux en d'autres langues. Dans le même article, elle évoqua également, pour la première fois mais pas la dernière, la question de l'argent. À notre époque, quelle valeur l'argent peut-il posséder quand on la compare à celle des âmes ? Chaque dollar que nous détenons doit être considéré comme appartenant au Seigneur, et non à nous, comme un don précieux que Dieu nous a confié, que nous ne devons pas gaspiller dans des acquisitions inutiles, mais que nous devons employer dans la cause divine, pour arracher à la ruine des hommes et des femmes. Elle adressa ce reproche à ses lecteurs. Une négligence indolente et une incrédulité criminelle nous ont empêchés, en tant que membres d'une communauté, d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée, à savoir porter la lumière à ceux qui appartiennent à d'autres nations. Nous craignons de nous lancer dans cette noble tâche et de courir des risques, de peur que les dépenses engagées ne produisent pas de résultats. Elle déclara que la mission ne devait pas être considérée comme une entreprise comme les autres. Des hommes investissent dans l'industrie et subissent de lourdes pertes, et on ne voit là rien d'anormal. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on craint de courir des risques. Il semble à vues humaines que lorsqu'il est employé pour le salut des âmes, l'argent dépensé est une perte sèche s'il ne se traduit pas par des résultats immédiats. Ellen White regrettait que l'argent soit conservé par égoïsme et si parcimonieusement investi dans la cause de Dieu. En janvier 1875, moins de 3 mois après le départ d'Andrews, Dieu révéla à Ellen White de façon très claire que beaucoup d'adventistes allaient être appelés à quitter l'Amérique du Nord pour se rendre à l'étranger. Lors d'une vision, elle vit le monde rempli de ténèbres, comme un drap mortuaire, puis elle le vit se transformer. Elle s'exclama alors : « De la lumière, un peu de lumière, plus de lumière, beaucoup de lumière. Aussitôt après cette vision, elle expliqua à ceux qui étaient présents que toutes les minuscules lumières qu'elle avait vues et qui faisaient le tour du globe représentaient les nombreux adventistes faisant fonctionner des presses dans d'autres pays, imprimant le message dans de nombreuses langues. Ce message s'était ensuite répandu comme les feuilles à l'automne. La vision indiquait que les publications, mais aussi les maisons d'édition, et donc les adventistes du septième jour, iraient dans le monde entier. En effet, il est important de souligner qu'Ellen White n'imagina jamais que les publications envoyées en Europe pourraient remplacer le témoignage verbal de personnes parlant de Jésus et des prophéties. Elle considérait que la littérature n'était qu'un moyen permettant de préparer le champ pour l'arrivée de missionnaires. Ceux-ci pourraient effectuer un travail qu'il serait impossible de mener à bien en se contentant d'envoyer de la littérature. Dans un témoignage donné en 1871, Ellen White précisa « Nous pouvons accomplir de grandes choses avec les publications, mais nous pouvons faire bien plus encore lorsqu'un prédicateur œuvre en parallèle. Nous avons besoin de missionnaires qui acceptent de se rendre dans d'autres pays pour prêcher la vérité de façon prudente et sérieuse. » Elle se réjouissait à l'idée que des missionnaires se portent volontaires pour se rendre dans d'autres pays et leur apporter la vérité, et désirait que des membres d'Église soient encouragés à le faire et soient soutenus dans cette entreprise. En 1874, en Californie, Ellen White avait eu une autre vision concernant la mission. Lors de cette vision, elle entendit et vit un ange dire ceci à une assemblée de responsables adventistes. Vous avez une conception trop limitée de la mission que nous devons mener à bien aujourd'hui. Vous essayez de faire des projets à votre mesure. Vous devez voir plus grand. Ne mettez pas votre lumière sous un boisseau ou sous un lit, mais sur un chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Votre maison est le monde. Elle adressa donc de paroles de reproche aux responsables qui croyaient qu'en prêchant aux personnes ayant immigré aux États-Unis, l'Église adventiste accomplirait sa mission consistant à prêcher à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Elle poursuivit en disant que certains adventistes pensaient à tort qu'en raison du retour imminent du Christ, le temps manquait pour évangéliser le reste du monde. Il est possible que vous ne récoltiez pas immédiatement les fruits de votre travail, mais cela ne devrait pas vous décourager. Noé prêcha pendant 120 ans avant le déluge. Pourtant, parmi la multitude d'habitants de la terre, seuls 8 furent sauvés. La vision d'Ellen White se conclut ainsi. Les implications très claires du quatrième commandement doivent être présentées sans ambiguïté. Notre message doit être proclamé avec force dans toutes les parties du monde, dans l'Oregon, en Europe, en Australie, dans les îles, à toute nation, toute langue et tout peuple. De nombreux pays aspirent à recevoir la lumière que le Seigneur désire leur envoyer. Ces déclarations très claires signifiaient qu'il n'était plus question de réfuter l'importance de mener des actions d'évangélisation dans les pays étrangers. Mais certaines réticences personnelles perdurèrent jusqu'au XXe siècle. Renforcer la mission. Les fruits de l'expérience. Après le départ des missionnaires adventistes, Ellen White ne cessa d'insister sur la nécessité de renforcer le service missionnaire à l'étranger. Bien sûr, elle voulait continuer à évangéliser l'Amérique du Nord, mais elle désirait aussi intensifier les efforts entrepris en Europe et en Australie. Elle considérait que ces deux missions étaient intrinsèquement liées. Elle insistait sur l'importance du message du troisième ange concernant la mission à l'étranger. Elle déclara « L'œuvre missionnaire dans nos pays progressera en tout point lorsqu'un esprit de libéralité, d'oubli de soi et de sacrifice se sera manifesté en faveur des missions étrangères. » Car la prospérité de cette œuvre dans nos pays dépend largement, sous la direction de Dieu, de l'influence réflexe de l'œuvre d'évangélisation accomplie dans les pays lointains. En 1883, lors d'un témoignage qu'elle rendit à l'église de Battle Creek concernant les missions étrangères, elle avait dit « Le meilleur moyen de demeurer dans l'amour de Dieu est de travailler activement au salut de nos semblables. » En 1907, elle écrivit Son œuvre sur terre est très précieuse à ses yeux. Mais avant que ce travail ne s'accomplisse, nous devons faire l'expérience, ici, dans notre pays, de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Ainsi, pour Ellen White, le travail missionnaire était essentiel. Les missions étrangères avaient une importance particulière parce que la mission menée en Amérique était directement affectée par les efforts fournis dans les pays lointains. Parallèlement, pour que la mission progresse à l'étranger, il fallait qu'un réveil se produise en Amérique. Ellen White passa 2 ans en Europe, 1885 à 1887, et elle y découvrit ce que voulait dire travailler dans des pays où le catholicisme et le protestantisme d'État étaient établis. Il était beaucoup plus difficile d'évangéliser ces pays que la société égalitaire des États-Unis. Par la suite, elle passa 9 ans en Australie, 1891 à 1900. Elle tira des leçons importantes de ses expériences à l'étranger. Premièrement, elle se méfia des responsables qui affirmaient savoir de quelle façon il fallait œuvrer à l'étranger quand ils n'avaient passé qu'une ou 2 années dans un pays lointain. Elle établit un principe important. Ceux qui étaient appelés à diriger une mission à l'étranger devaient avoir une certaine expérience du terrain. À la fin de l'année 1886, dans une lettre adressée depuis l'Europe à un correspondant en Amérique, elle déclara « Personne ne peut mesurer quelle est la véritable situation de ce champ missionnaire, ou en parler, à moins d'y rester suffisamment longtemps pour réellement comprendre son fonctionnement et le travail qui y est effectué. Vous auriez du mal à imaginer les efforts qui sont fournis pour empêcher les pasteurs de proclamer la vérité. » 13 ans plus tard, déplorant la lenteur de l'expansion de la mission dans les années 1898, elle écrivit « Les recommandations de Dieu n'ont pas toujours été suivies. Des hommes inexpérimentés ont été choisis pour travailler au sein des missions étrangères. » Ellen White pensait qu'il était essentiel que les responsables d'église aient de l'expérience et une bonne connaissance des cultures étrangères au niveau des divisions. Deuxièmement, son expérience en Europe la conforta dans l'idée qu'il fallait confier aux jeunes de grandes responsabilités dans le domaine missionnaire. En 1883, dans un article publié dans la Review, elle avait déclaré sans ambiguïté « Nous avons besoin de jeunes gens. Dieu les appelle dans les champs missionnaires. » D'après elle, ils pouvaient s'adapter à de nouveaux climats et de nouvelles cultures plus facilement, et ils étaient mieux à même de faire face à des désagréments et des épreuves. Reconnaissant que l'Église pouvait se demander s'il était légitime de confier à des jeunes de grandes responsabilités consistant à établir et gérer des missions étrangères, elle fut très claire. Nous devons faire confiance à nos jeunes gens. En 1886, elle évoqua les besoins de l'Europe, encouragea les jeunes à devenir missionnaires et mentionna la nécessité d'une formation spécialisée. Nous devons développer nos missions à l'étranger, affirma-t-elle. Elle désirait voir les jeunes rejoindre les rangs des ouvriers. Elle précisa ce qu'il fallait faire pour que cela puisse se produire. Nous devrions fournir des efforts plus importants afin de les préparer à travailler dans ces champs missionnaires à l'étranger. Nous devons créer un fonds pour les aider à se préparer pour ce travail. Dans toutes les missions qui sont établies, nous devons créer une école pour la formation des ouvriers. Nous devons recruter les plus grands talents parmi les Allemands, les Français et les Scandinaves afin de former des jeunes gens et des jeunes filles de différentes nationalités. Et dans toutes nos institutions scolaires, nous devons nous organiser de façon à instruire et former ceux qui veulent devenir missionnaires dans des pays étrangers. Troisièmement, au cours de son séjour de 2 ans en Europe, Ellen White comprit que l'Amérique devait soutenir la mission en Europe de façon à la faire progresser. Par la suite, elle donna toujours la priorité aux besoins des missions étrangères. Au cours de ses voyages, elle critiqua parfois les croyants d'Europe ainsi que les missionnaires américains venus y travailler. En général, cependant, elle considérait que le problème essentiel était le manque d'argent et de main-d'œuvre et que la solution était une plus grande implication des États-Unis. Elle rédigea un témoignage très fort qui fut publié moins de 3 semaines avant Noël 1887, environ 4 mois après son retour d'Europe. Les ouvriers de ce champ missionnaire font de leur mieux pour répondre aux besoins de la cause. Mais il nous faut plus d'argent pour soutenir et développer cette mission. Plusieurs pays nous disent « Envoyez-nous un pasteur pour prêcher la vérité ». Comment pouvons-nous répondre à ces appels ? Elle lança alors un appel aux membres d'église. « Nous avons besoin maintenant de chaque dollar et de chaque pièce que nous pouvons mettre de côté afin de contribuer à proclamer le message de la vérité dans d'autres pays. En cette période de fête, notre peuple dépense beaucoup d'argent pour acheter des cadeaux et diverses choses qui sont non seulement inutiles, mais souvent mauvaises. Si l'argent dépensé ainsi était apporté au trésor et consacré à la mission, nos efforts missionnaires en seraient grandement facilités. Comment pouvons-nous mieux célébrer Noël qu'en exprimant toute notre reconnaissance à Dieu pour le don de son Fils et qu'en annonçant son retour proche au monde entier ? Ellen White continua à plaider en faveur d'un soutien financier plus important des missions étrangères. En 1892, elle déclara « Le Seigneur a confié de grands moyens à ses serviteurs, afin qu'ils puissent répondre aux besoins pressants de notre époque et planter la bannière de la vérité en de nombreux lieux obscurs de notre terre. Mais les bénédictions que le Seigneur a déversées sur les siens sont mal employées. Elles sont utilisées pour des projets égoïstes que Dieu n'approuve pas. » Ellen White conclut « Le Seigneur a besoin d'ouvriers partout. Dieu nous donne de nombreuses choses en abondance, et nous devons prier et prendre la décision de l'honorer avec ce que nous possédons et les prémices de nos récoltes. » 6 ans plus tard, en 1898, elle reprit ce thème dans une brochure intitulée « An Appeal for Missions ». Si le peuple de Dieu possédait l'amour du Christ dans son cœur, si chaque membre d'Église était fortement imprégné de l'esprit de renoncement, si tous faisaient preuve de zèle, les fonds ne feraient pas défaut pour la mission intérieure comme pour les missions étrangères. Dans cette brochure, elle encouragea les membres d'Église à faire des dons pour les missions et elle appela les responsables à s'efforcer sans cesse de récolter des fonds parmi les membres pour les missions. En 1898, elle appela les frères en tout lieu à se réveiller et à se consacrer à Dieu. Elle écrivit « J'appelle les responsables de nos fédérations à convaincre les Églises de faire des dons afin de soutenir les missions étrangères. » Ellen White mit en garde les responsables de l'Église, leur recommanda de ne pas utiliser les fonds dans le but de multiplier les institutions en Amérique et les sensibilisa aux besoins du reste du monde. En 1892, elle plaida « Nous devrions veiller à ne pas dépenser notre argent de façon à nous faire plaisir et à bâtir des institutions coûteuses, mais à le dépenser là où il y a des besoins et à travailler conformément à la volonté de Dieu pour établir son royaume sur la terre. » Dans un appel qu'elle lança en faveur des missions en 1898, elle s'exprima de façon plus claire et plus forte encore. « Ceux qui ont des moyens doivent comprendre que le temps est venu de les consacrer à Dieu. Ne les consacrons pas à multiplier les projets là où notre cause est déjà bien établie. Ne construisons pas de nouveaux bâtiments là où nos intérêts sont déjà présents. Nous devons utiliser notre argent pour créer des centres dans des champs nouveaux. Pensez à nos missions étrangères. Certaines d'entre eux ont du mal à s'établir. Elles manquent de tout. Au lieu de développer ce qui existe déjà, développons des missions dans ces champs démunis. Le Seigneur nous l'a recommandé à maintes reprises. Il ne peut bénir son peuple si celui-ci néglige ses instructions. Cependant, le problème consistant à consacrer des ressources à des projets existants plutôt que de les utiliser pour développer la mission dans de nouvelles régions n'était pas propre à l'Amérique. En effet, les missionnaires conservaient leurs habitudes de travail quand ils se rendaient à l'étranger. Dès 1899, Ellen White exprima des regrets concernant toutes les occasions perdues en Afrique où des ouvriers consacrés auraient pu agir dans des champs vierges, avec le soutien d'hommes ayant des responsabilités. Grâce à ce travail, de nombreuses personnes auraient pu découvrir le royaume de Dieu. Malheureusement, cependant, la même erreur fut commise en Afrique et à Battle Creek. Un centre important et coûteux fut établi dans un seul lieu, et d'autres parties de la vigne du Seigneur furent négligées. Elle avait le souci constant que le travail mené en Amérique, où il y avait d'abondantes ressources, ne soit pas prioritaire par rapport aux missions étrangères, où peu de choses pouvaient être faites sans un réel soutien matériel. En 1900, elle évoqua cette question à deux reprises dans des lettres adressées aux responsables de l'Église. En février, elle déclara « Il, le Seigneur, ne veut pas que tant d'ouvriers se consacrent à cette mission, et il souhaite que nous n'épuisions pas nos ressources en bâtissant des institutions, ralentissant ainsi les efforts menés à l'étranger. Dieu désire qu'il y ait 100 ouvriers là où il n'y en a qu'un seul actuellement. Il faut que des missionnaires se rendent à l'étranger. » En juin, elle écrivit « De nombreux champs de la vigne du Seigneur n'ont pas encore été touchés, et ceux qui travaillent dans les institutions établies doivent le comprendre. Que nos églises, nos familles et toute personne parmi nous ne conservent pas les moyens nécessaires pour permettre aux serviteurs de Dieu d'œuvrer dans des régions lointaines. Elle poursuivit ainsi. Le message du troisième ange doit être proclamé dans toutes les régions du monde, et nous ne devons pas établir des institutions qui nécessiteraient de dépenser l'argent qui appartient à Dieu pour une cause inutile dans la période où nous sommes. Un appel prophétique à agir. Comme le montrent ses dernières déclarations, Ellen White avait un véritable sentiment d'urgence concernant la mission. Cela s'explique par les séjours qu'elle fit en Europe et en Australie, mais ce n'est pas tout. En réalité, cela venait de sa compréhension des principes eschatologiques et sotériologiques. Elle désirait que le plus grand nombre de personnes puissent développer une relation étroite avec Jésus aussi rapidement que possible, et pensait que l'Église, et donc les membres, avaient la responsabilité d'agir. Elle écrivit en 1903. Beaucoup de ceux qui ont été appelés à proclamer la vérité du message du troisième ange ne comprennent pas que le salut des âmes dépend de la consécration de l'Église de Dieu et de ses actions. Elle était convaincue que l'Évangile éternel devait être prêché au monde entier avant le retour de Jésus et donc que les disciples du Seigneur avaient le pouvoir de hâter ou de retarder ce retour. En 1892, elle écrivit à Ellet G. Wagoner, qui avait été appelé à servir en Grande-Bretagne, pour l'encourager à aller de l'avant. Le fait que les choses avancent lentement en Angleterre n'est pas une raison pour que notre travail missionnaire progresse lentement. La mission du Seigneur doit être accomplie avec empressement. Des âmes périssent sans connaître la vérité. Dans la brochure de 1898 intitulée « An Appeal for Missions », elle déclara « Si votre cœur n'est pas touché en constatant quelle est la situation dans les champs missionnaires à l'étranger, le dernier message d'amour destiné au monde ne sera pas proclamé et nous ne pourrons pas faire le travail que Dieu souhaite nous voir accomplir. » Et en 1898, elle déclara avec force dans « The Desire of Ages » « De même aujourd'hui, avant la venue du Fils de l'homme, l'Évangile éternel doit être annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. » Apocalypse 14, versets 6, 14. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Acte 17, verset 31. Le Christ nous fait savoir quand ce jour viendra. Il ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. En annonçant l'Évangile au monde, il nous est donné de hâter le retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas seulement attendre le jour de Dieu, mais nous devons le hâter. Si l'Église du Christ avait fidèlement accompli la tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti, et le Seigneur Jésus revenu avec puissance et grande gloire. La déclaration du Christ dans Matthieu 24, verset 14, est citée ici, était au cœur de la position d'Ellen White concernant le développement de la mission globale et explique le sentiment d'urgence qui était le sien. C'est à partir de ce texte qu'elle établit l'un de ses principes les plus importants sur la mission, à savoir que la responsabilité d'évangéliser le monde revient à tous les adventistes. Elle évoquait sans cesse cette question, citant les mots de Matthieu 24 et d'Apocalypse 14 et présentant l'implication de tous les membres d'Église dans la mission comme un impératif prophétique. Elle ne voulait pas dire que tous devaient partir en mission à l'étranger. Ceux qui ne le pouvaient pas étaient invités à donner de l'argent, à prier ou à témoigner dans leur entourage. Mais elle considérait que la proclamation de l'Évangile éternel et du message du troisième ange était une priorité pour les adventistes du septième jour. En 1902, elle affirma « La mission qui nous est confiée par le ciel et qui consiste à proclamer l'Évangile dans le monde entier aujourd'hui est la plus noble qui soit. Elle ouvre un grand champ de possibilités à tous ceux dont le cœur a été touché par le Christ. » Cette même année, s'adressant à des responsables de l'Église germano-américain, elle écrivit « Dieu a préparé son peuple à être une lumière dans le monde. Il l'a qualifiée de façon à pouvoir développer sa mission jusqu'à ce qu'elle soit présente dans le monde entier. Il doit établir des centres de santé, des écoles et des maisons d'édition dans toutes les parties du monde. Le message de l'Évangile doit être proclamé à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. » Apocalypse 14, verset 6. Dans une prédication qu'elle fit lors de l'Assemblée de la Conférence Générale de 1903, elle déclara à ses auditeurs « Nous devons nous poser cette question. Que puis-je faire pour proclamer le message du troisième ange? Il doit être annoncé à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Comment devons-nous procéder? Elle fit cette même déclaration à trois autres reprises, ce qui montre à quel point ce sujet lui tenait à cœur. Plus tard, en 1903, dans un article de la Review, elle écrivit à peu près la même chose. Les croyants qui sont l'objet des bénédictions du ciel doivent en être reconnaissants et apporter cette lumière à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Elle répéta « Que tous les adventistes se demandent « Que puis-je faire pour proclamer le message du troisième ange ?» Il doit être annoncé à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Comment devons-nous procéder ? » Elle reprit cette déclaration et l'adapta pour un autre témoignage qui fut publié à trois autres reprises en 1904 dans les périodiques adventistes américains. En 1905, elle écrivit au missionnaire travaillant dans le domaine médical, Daniel H. Kress. « Nous avons une mission à accomplir dans le monde entier, et tandis que nous approchons des temps de la fin, le Seigneur convaincra de nombreuses personnes de s'engager dans cette mission. » En 1907, elle déclara ceci au sujet de la formation des missionnaires, dans un article publié l'année suivante. « Alors que le retour du Christ approche, nous devons fournir de plus en plus d'efforts dans le domaine missionnaire. Le message de la puissance de la grâce salvatrice de Dieu sera proclamé dans tous les pays jusqu'à ce que la vérité se répande dans le monde entier. Parmi ceux qui ont reçu le sceau se trouveront des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Des hommes et des femmes viendront de tous les pays pour se tenir devant le trône de Dieu et devant l'agneau. Représenter le Christ devant tous. Une autre caractéristique de la pensée d'Ellen White sur la mission était la nécessité pour les missionnaires de représenter le Christ. Elle défendait ce que les missiologues appellent la notion de mission incarnée. Elle conseillait aux nouveaux missionnaires de ne pas ériger de barrières inutilement et de faire en sorte de représenter Jésus et son amour au mieux avant d'enseigner les doctrines adventistes. En 1887, elle écrivit aux missionnaires qui allaient se rendre en Afrique. « Vous devez avant tout vous rappeler d'une chose, vous êtes des réformateurs et non des bigots. » Dans une autre lettre, elle leur parla de la grande mission solennelle qui les attendait et qui consistait à toucher les gens là où ils étaient. Ne vous sentez pas obligé de commencer par dire aux gens « Nous sommes adventistes du septième jour, nous croyons que le septième jour est le sabbat, nous croyons que l'âme n'est pas immortelle. » Vous érigeriez ainsi entre vous et ceux que vous souhaitez toucher de grandes barrières. Mais si vous en avez l'occasion, parlez-leur des points de doctrine sur lesquels vous pouvez être d'accord. Montrez que vous êtes chrétien et que vous les aimez. Vous gagnerez ainsi leur confiance et vous aurez ensuite l'occasion de leur parler de doctrine. Ellen White faisait cette recommandation. Avancez avec eux prudemment, leur présentant la vérité concernant Jésus-Christ avec amour. Ainsi, elle répétait sans cesse que les missionnaires devaient entretenir une relation étroite avec Jésus et être transformés. En 1888, elle déclara au sujet du travail missionnaire « Ce qui importe le plus, c'est que notre cœur, notre esprit, nos façons de faire et nos manières ne les offensent pas. Il était essentiel de s'assurer que ces ouvriers aient en eux l'esprit qui était en Jésus-Christ et que l'amour règne dans leur cœur. Ainsi, ils pourraient servir au mieux la cause missionnaire. » Deux années plus tard, en 1890, elle écrivit à tous les missionnaires qui étaient en Afrique du Sud. « Mes frères, vous êtes des missionnaires, et je souhaite qu'une transformation se soit opérée en vous de façon à ce que vos traits de caractère ne fassent pas obstacle à la cause de Dieu. » Elle espérait que la grâce abondante du Christ demeure en eux. L'autosuffisance est un frein pour la mission. Que le Seigneur vous accorde sa justice. En 1896, elle écrivit à Azathe Robinson, qui était alors missionnaire en Afrique. Je m'intéresse de près au travail missionnaire effectué en Afrique du Sud. J'espère que vous ne regardez pas aux hommes et que vous ne vous fiez pas à eux, mais que vous regardez à Dieu et que vous lui faites confiance. Nous pouvons avoir de plus grandes attentes et espérer que l'Esprit de Dieu agisse si nous croyons à ses promesses. Ne nous a-t-il pas montré à quel point nous sommes précieux à ses yeux et combien il attache de l'importance à notre âme en nous faisant le don de Jésus ? Nous devons entretenir une relation étroite avec Jésus-Christ afin d'éviter de vivre des expériences banales et ordinaires. L'année suivante, en 1897, elle écrivit de nouveau à Robinson et lui donna ses conseils inspirés. « Vous devez travailler en faisant preuve de plus d'amour et de compassion et lutter contre votre rigidité et votre froideur, sinon les efforts que vous fournissez en Afrique seront vains. Ce pays a besoin d'hommes ayant des principes fermes, mais vivant dans la simplicité et l'amour du Christ. » Elle lui recommanda de ne pas donner aux gens une impression d'austérité, de froideur et de dureté. Elle ajouta « Vous devez refléter les rayons du soleil de justice qu'est Jésus-Christ. » 2 ans plus tard, réfléchissant au dysfonctionnement du comité des missions, elle souligna « Certains hommes choisis, pour occuper des postes de responsabilité dans la mission, n'étaient pas des hommes consacrés. Ils sont devenus sûrs d'eux et orgueilleux. » Ellen White préférait les responsables qui vivaient une relation étroite avec Dieu. Son désir de voir les missionnaires représenter le Christ auprès des peuples étrangers l'incitait à faire preuve de sévérité vis-à-vis de ceux qui proposaient de se conformer aux préjugés raciaux afin de faciliter le travail missionnaire. Alors qu'elle était en Australie en 1900, elle s'exprima en des termes très forts qui, malheureusement, allaient concerner les adventistes pendant une grande partie du siècle. Concernant la question des classes sociales et de la couleur de peau, nous n'avons rien à gagner à faire des différences. L'Esprit de Dieu en serait attristé. Nous sommes tous supposés nous préparer à vivre dans le même ciel. Nous avons le même Père Céleste et le même Rédempteur qui nous aime et qui s'est donné pour nous, sans faire la moindre différence. Nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre et les enfants de Dieu ne doivent pas être orgueilleux, hautains et se détourner des âmes qui aiment Dieu ou encore cesser d'œuvrer pour les âmes pour lesquelles le Christ est mort. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur ne prêtent pas attention aux différences de classe sociale ou de nationalité, car l'Esprit de Dieu règne dans le temple de leur âme. Nous sommes invités à soutenir tous ceux qui ont besoin d'être encouragés et consolés, quelle que soit leur nationalité. Demandez-vous si le Christ ferait des différences. En rassemblant son peuple, serait-il capable de dire « Ici mon frère, ici ma sœur, car vous n'êtes pas juif, vous appartenez à une classe sociale différente ? » Serait-il capable de demander à ceux qui ont la peau foncée de s'asseoir à l'arrière et à ceux qui ont la peau claire de s'asseoir à l'avant ? Il est arrivé une fois que certaines personnes proposent de mettre un rideau séparant les gens de couleur et les blancs. Je leur ai demandé « Jésus ferait-il cela ?» Ceci m'attriste profondément. La couleur de peau n'est pas un critère de la qualité de l'âme. La vérité nous incite à sortir du monde. Dieu nous choisit tous, quelle que soit notre classe sociale, notre nationalité, notre langue. Il nous rassemble autour de lui pour nous préparer à vivre dans son temple. Éclairer le monde entier. Enfin, alors qu'elle avait une 60aine d'années, Ellen White s'intéressa de plus en plus aux catholiques et aux personnes ayant une religion autre que le christianisme. Il faut souligner que ce n'était pas une pratique acceptée par les adventistes à l'époque. La situation des années 1890 fut décrite par William A. Spicer, un missionnaire reconnu de l'époque, secrétaire de la Conférence générale de 1903 à 1922, puis président de la Conférence générale jusqu'en 1930. Lorsqu'il prit sa retraite, voici ce qu'il rappela aux délégués de l'Assemblée de la Conférence générale de 1930. Il y a 40 ans, nous ne pensions pas œuvrer auprès des païens. Nous n'envisagions pas ce genre de démarche. Nous n'imaginions pas non plus nous rendre dans les pays catholiques. Nous pensions en convaincre certains, puis le Seigneur devait revenir. Mais le Seigneur désirait aussi appeler les païens et les catholiques et les voir faire partie de son peuple. L'attitude des adventistes changea, notamment grâce à Ellen White. Elle voulait que les chrétiens de pays occidentaux entendent parler de toutes les vérités bibliques, et progressivement, elle commença à s'intéresser à d'autres pays, ce que les pays dits « civilisés » par ses contemporains. Elle attira l'attention des adventistes sur les pays animistes et les pays ayant d'autres religions. En 1887, elle évoqua avec passion la France et l'Allemagne, avec leurs grandes villes et leurs nombreux habitants. L'Italie, l'Espagne et le Portugal, après des siècles de ténèbres, libérés désormais de la tyrannie et prêts à entendre la parole de Dieu. La Hollande, l'Autriche, la Roumanie, la Turquie, la Grèce et la Russie, où des millions de personnes habitent et qui sont aussi précieuses aux yeux de Dieu que nous, mais qui ne savent rien des vérités pour notre temps. En 1900, elle déclara « Nous avons une grande mission à mener en Angleterre. La lumière qui brille dans Londres doit éclairer toutes les autres régions. » Dans un témoignage donné en 1902 et publié en 1904, elle dit « Nous avons une mission à mener en Scandinavie. » En pensant au monde non chrétien, elle écrivit en 1890 « Dieu désire que nous accomplissions un travail important en Afrique. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles apparents qui pourraient se dresser sur votre chemin. C'est la mission de Dieu, et il aplanira vos sentiers, il préparera la voie. Le travail qui doit être accompli dans les pays étrangers ne peut être mené à bien par des hommes mortels s'ils ne sont pas soutenus par la sagesse divine. » Dans un article publié dans une revue pour la semaine de prière, elle déclara « Le monde entier s'ouvre à l'Évangile. L'Éthiopie tend les mains vers Dieu. Du Japon, de la Chine, de l'Inde, des pays enténébrés encore de notre monde, de tous les coins de cette terre, monte le cri des cœurs blessés par le péché et avides de connaître le Dieu d'amour. Des millions et des millions de gens n'ont jamais entendu parler de Dieu ni de son amour révélé en Christ. » Ils ont le droit de le connaître, de recevoir la miséricorde divine, au même titre que nous. Et il nous incombe, à nous qui avons reçu ces connaissances, à nos enfants avec qui nous les partageons, de répondre à leurs cris. Dans un témoignage publié en 1909, elle affirma « En Afrique, en Chine, en Inde, il y a des milliers, oui des millions de gens qui n'ont pas entendu parler du message de la vérité pour notre temps. Ils doivent être informés. Les habitants des îles aspirent à connaître Dieu. » La mission devait donc être mondiale, et Ellen White l'affirma clairement. Elle insista aussi sur la responsabilité de ceux qui vivaient dans des pays chrétiens et protestants vis-à-vis des autres populations, et plus elle prit de l'âge, plus elle devint explicite. « Le monde a besoin de nous maintenant. Des appels nous sont lancés de partout, comme de Macédoine par exemple. Venez nous aider !» Elle ne cessa de reprendre ce thème. En 1900, dans un article de la revue australienne Union Conference Record, elle demanda instamment aux croyants vivant les pays chrétiens de prêter attention à l'appel des pays éloignés. « Venez nous aider !» Il n'est pas facile de les atteindre, et ils ne sont peut-être pas prêts pour la récolte comme les champs qui sont devant nos yeux, mais ils ne doivent pas être négligés. Nous devons leur parler de la victoire remportée à la croix. Notre mot d'ordre doit être « Allons de l'avant. Nous devons sans cesse penser aux régions éloignées, jusqu'à ce que la terre entière soit éclairée de la gloire du Seigneur. » Manifestement, elle attachait de l'importance à ce témoignage, car il fut publié à nouveau, avec de légères différences, en 1900 dans le volume 6 de Testimonies, et de nouveau en 1903 dans Atlantic Union Gleaner. Dans un essai qui parut également dans Testimonies volume 6, et qui constitua l'essentiel d'une méditation de la semaine de prière en 1901, elle affirma avec force « La vigne est constituée du monde entier, et il convient de travailler dans toutes les parties de la vigne. La vérité doit être annoncée dans toutes les villes et toutes les régions reculées de la terre. La terre entière doit être éclairée de la vérité de la gloire de Dieu. La lumière doit briller partout et auprès de tous. » Elle termina cet essai avec les mots de l'article publié dans Record en 1900. « Nous devons sans cesse penser aux régions éloignées, jusqu'à ce que la terre entière soit éclairée de la gloire du Seigneur. » En 1907, Ellen White insista sur le fait que le message final n'était pas uniquement pour les chrétiens, déclarant dans un témoignage qui fut publié 2 fois en 12 mois et qu'elle fit réimprimer 2 ans avant sa mort, « L'œuvre de Dieu sur terre, en ces derniers jours, doit refléter la lumière que le Christ a introduite dans le monde. Les hommes plongés dans le paganisme doivent être touchés par des personnes qui étaient par le passé aussi ignorantes qu'eux, mais qui ont connu la vérité de la parole de Dieu. Ces nations païennes accepteront volontiers d'apprendre à connaître Dieu. » En 1912, dans un article de la Review, elle affirma « Les anges de Dieu touchent le cœur et la conscience des habitants des autres nations, et les âmes honnêtes sont troubles en voyant les signes des temps qui se produisent dans les nations agitées. Elles se demandent « Comment tout cela se terminera-t-il » Vers la fin de sa vie, elle reprit le thème de l'appel à l'aide quand elle révisa le livre « Gospel Workers ». Elle réécrivit entièrement le paragraphe qui, en 1882, faisait référence aux appels venant de toutes les parties du monde, et elle le plaça dans la partie consacrée aux missions étrangères et non dans la partie concernant la façon de témoigner. Ainsi, elle insista sur l'urgence des appels lancés et de leur origine. « Je ressens intensément les besoins des pays éloignés qui m'ont été souvent présentés. Dans toutes les parties du monde, les anges de Dieu ouvrent des portes qui, après un court laps de temps, seront fermées aux messages de vérité. De l'Inde, de l'Afrique, de la Chine et de bien d'autres endroits se fait entendre l'appel « Venez nous secourir ». Nous avons débuté cette analyse avec la vision qu'eut Ellen White en 1848 sur les publications et nous la terminons par ce témoignage, publié l'année de sa mort. Il est temps de conclure cet aperçu des principes développés par Ellen White sur la mission. Conclusion. Il convient d'évoquer un dernier témoignage avant de terminer, comme le lapin blanc de Lewis Carroll. Il s'agit d'une lettre qu'Ellen White écrivit d'Australie et adressa à l'Assemblée réunie pour la session de 1893 de la Conférence Générale, dans laquelle elle invitait toutes les personnes présentes à dépasser leur situation relativement confortable et leurs besoins, afin que l'Évangile et le message du troisième ange soient proclamés partout dans le monde. Pendant les décennies qui suivirent le voyage de Andrews en Europe, les adventistes américains eurent beaucoup de difficultés à s'intéresser au reste du monde. Ils étaient actifs dans l'évangélisation auprès des immigrants aux États-Unis et au Canada, mais beaucoup ne pensaient pas qu'il était de leur devoir de partager les précieuses vérités qu'ils avaient reçues au-delà de l'Amérique du Nord. Ellen White dénonça ce repli sur soi à de nombreuses reprises, mais en des termes plus forts encore en 1893. Ces mots peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui, car on entend parfois dire, en Amérique du Nord et ailleurs, que les adventistes n'ont pas à se soucier du reste du monde, et que nous pouvons laisser les adventistes d'Afghanistan, d'Algérie, d'Azerbaïdjan, du Bangladesh, du Bhoutan, du Sultanat de Brunei, du Burkina Faso, du Cambodge, de Chine, du Tchad, d'Irak, d'Iran, d'Inde, d'Indonésie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Libye, du Liban, du Laos, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, de Malaisie, de Mongolie, du Myanmar, du Sénégal, du Soudan, de Somalie, de Syrie, d'Arabie Saoudite et du Sri Lanka, ou même des grandes villes d'Europe de l'Ouest où le pourcentage d'adventistes par rapport à la population générale est similaire à ceux de la fenêtre 10/40 se débrouiller. Ainsi, je pense que l'appel lancé aux adventistes américains en 1893 est toujours pertinent et utile pour nous aujourd'hui. Chers frères et sœurs de Battle Creek qui avez reçu de précieuses vérités, je vous demande de penser aux très nombreuses âmes qui ont besoin d'entendre parler du message de l'amour rédempteur. Vous avez eu le privilège de recevoir l'eau de la vie grâce à Jésus, mais voulez-vous vous réjouir de l'abondance de cette grâce et de cet amour merveilleux sans vous préoccuper de ceux qui sont encore dans les ténèbres et dans l'erreur? Je vous demande de montrer des signes tangibles indiquant que vous appréciez le fait que Dieu ait envoyé son Fils dans le monde afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Aimez-vous votre prochain comme vous-même? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices personnels pour que la vérité salvatrice puisse être proclamée dans des régions démunies où les gens périssent faute de bénéficier du pain de vie? Êtes-vous des disciples du Christ? Êtes-vous prêt à coopérer avec Jésus? Si vous aimez la vérité, de quelle façon pourriez-vous œuvrer pour qu'elle puisse être annoncée à d'autres? Elle évoqua ensuite certains points particuliers concernant Battle Creek et elle dénonça l'égoïsme collectif des membres d'église ainsi que leur orgueil avant de reprendre le thème de la mission. Nos frères et sœurs ne sont pas suffisamment éveillés au sens des réalités pour faire, à l'aide des facilités dont ils disposent, tout ce qui est en leur pouvoir pour la proclamation du message final. De nouvelles églises doivent être bâties, de nouvelles congrégations organisées. Que la lumière brille sur tous les pays et tous les peuples. La terre entière doit être éclairée par la gloire de la vérité divine. Le Seigneur ne mettra pas fin au temps de grâce tant que le dernier message ne sera pas proclamé avec plus de force. La trompette doit sonner d'une certaine façon, la loi de Dieu doit être exaltée dans tout son caractère saint, et le message de la justice du Christ doit être annoncé d'une extrémité du monde à l'autre. c'est la gloire de Dieu qui achèvera l'œuvre du troisième ange. Ceux qui sont à Battle Creek dorment-ils? Sont-ils paralysés? Vous attendez depuis longtemps les événements merveilleux et étonnants qui doivent se produire juste avant le retour du Fils de l'homme dans les nuées avec puissance et gloire. Mais je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à faire sonner la trompette d'une certaine façon? Avez-vous chaque jour le sentiment d'être les grands partenaires du Christ et de l'honorer en mettant en œuvre le plan du Seigneur pour le salut des hommes? Le meilleur moyen de demeurer dans l'amour de Dieu est de devenir des ouvriers actifs pour le salut d'autrui. Le Seigneur revient. Les dernières étapes de l'histoire de cette terre se terminent, mais nous n'avons pas accompli notre tâche. Nous attendons impatiemment que les êtres humains coopèrent et fassent avancer la mission. Le ciel entier, si je peux utiliser cette expression, attend impatiemment que les hommes coopèrent avec les agents divins en faveur du salut des âmes. Êtes-vous prêt à vous lever et à briller parce que la lumière est là et parce que la gloire du Seigneur est sur vous? Êtes-vous prêt à vous associer au Seigneur dans une sainte alliance et à devenir des canaux de communication permettant de diffuser la lumière et la grâce du ciel à notre monde? Nous avons vu qu'Ellen White avait défini des principes forts concernant les missions étrangères, mais que sa préoccupation majeure à ce sujet était « que cela se fasse ». Tous ceux dont la vie est transformée par Jésus-Christ parlent de lui, de la bonne nouvelle de la restauration qui est possible sur cette terre et de l'espérance d'un monde nouveau. L'Église mondiale dans son ensemble est responsable de l'univers entier. Ellen G. White joua un rôle majeur permettant de faire passer notre Église d'un mouvement uniquement basé en Amérique du Nord à un mouvement mondial. Pourtant, un siècle après sa mort, notre mission n'est pas encore achevée, et on ne peut s'empêcher de se demander si le ciel entier attend toujours impatiemment que les hommes coopèrent avec les agents divins en faveur du salut des âmes. Même si la croissance de l'Église est spectaculaire en Amérique latine et en Afrique subsaharienne, des milliards de personnes vivant en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l'Ouest sont adeptes du bouddhisme, de l'hindouisme, d'autres traditions asiatiques, de l'islam et du sécularisme postmoderne, et doivent entendre parler de l'Évangile éternel. La question adressée aux personnes de Battle Creek ne concerne-t-elle pas aussi ceux qui se trouvent à Berrien Springs, Silver Spring, Tacoma Park, Deer Park, Stanborough Park, Salisbury Park, Solusi, Somerset West, Fox Valley, Loma Linda et d'autres célèbres centres historiques de l'adventisme? Dormons-nous? L'impératif au sujet duquel Ellen White écrivit à de nombreuses reprises et avec passion tout au long de sa vie est pour nous également que tous les adventistes, où qu'ils se trouvent aujourd'hui, puissent être les grands partenaires du Christ, l'honorer, être associés au Seigneur dans une sainte alliance et devenir des canaux de communication permettant de diffuser la lumière et la grâce du ciel à notre monde.